Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Ça vous dirait une petite polémique sur fond de fort et de tigre protégeant des pièces d'or, d'accord ? Générique alors. Samedi dernier, un candidat pas comme les autres participait à Fort Boyard sur France 2. Qu'a donc de différent le journaliste Hugo Clément ? Eh bien, c'est un farouche défenseur de la cause animale. Depuis la diffusion du jeu, Hugo Clément se prend des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. Ah bah, c'est bien beau de faire toute l'année dans larmoyant pour les animaux et de participer à une émission où des tigres tournent en rond 2 mois par an derrière des barreaux au milieu de l'océan. Sous-entendu, copain comme cochon. Réponse de l'intéressé contestée. À l'occasion de ma participation, j'ai pu mettre ce problème en lumière. Petite humeur de chien quand même. Au sommaire ce matin de Culture Média, vivre un enfer physique pour tester ses limites. M6 lance ce soir son programme Force Spéciale d'Expérience. Des candidats tentent la sélection des unités d'élite de l'armée. Nous serons avec l'une d'elles, Jessica, et avec le chef instructeur Ryan. Série d'été dans le journal Le Monde, la journaliste Pascale Robert-Diard vient nous raconter comment elle a travaillé pour ces 6 épisodes reconstituant l'affaire Gabrielle Russier, cette enseignante qui s'est donnée la mort en 1969, condamnée pour avoir aimé l'un de ses élèves. Après 10h, un humoriste qui mouille sa chemise malgré le Covid, Kayron est sur scène tout l'été au Théâtre de l'Européen à Paris, un spectacle en impro avec le public. Où que vous soyez, bonne matinée à vous, la pleine lune est passée, Culture Média peut commencer. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'avez-vous sous votre Marcel ce matin ?
Sous mon Marcel, France 4 va mourir mais pas encore, Dieudonné dégagé de Facebook, et puis les petits Anglais en pleurent.
Mais... c'est ça, c'est les audiences. J'attendais le tapis, j'attendais avec impatience les audiences d'hier soir, Martin.
Eh bien, c'est TF1 hier qui s'impose avec sa série Camping Paradis, 3 400 000 téléspectateurs, juste après France 2 et sa série policière Motive, le mobile du crime. Pour fermer la marche, M6 avec son film Mince alors, 2,3 millions de téléspectateurs.
Culture Média. Et l'on commence ce journal avec le sort de France 4 et de France O qui s'éclaircit.
Elle devait mourir dimanche soir, mais France 4 a droit à un sursis d'un an, selon Le Parisien. Le canal 14 va bien s'éteindre, mais l'été prochain seulement. France O, elle, est un peu moins chanceuse. Le canal 19 gagne un bonus de 3 semaines et devrait disparaître à la fin du mois d'août.
Facebook à présent qui bannit Dieudonné Mbala Mbala.
1 300 000 personnes suivaient sur Facebook l'ex-humoriste converti au complotisme en tout genre et à l'antisémitisme. 1 300 000 fans sur Facebook, plus 36 000 sur Instagram, là aussi fermé. Instagram, c'est la propriété de Facebook. Et cette fois-ci, c'est définitif. Dieudonné Mbala Mbala ne pourra plus se réinscrire, plus jamais. Facebook ferme les pages de Dieudonné parce qu'elles ont abrité, je cite, des contenus se moquant des victimes de la Shoah et des termes déshumanisants à l'encontre des juifs. Pour la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, forcément c'est bien, mais il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Marco Stasi, président de la LICRA, est à notre micro.
Il faudrait simplement que de façon objective, il soit écrit dans une loi qu'il est interdit de proférer des paroles qui sont des délits, c'est-à-dire des propos antisémites ou des propos négationnistes sur les réseaux sociaux. Plus de 10 ans que la LICRA se bat sur ce sujet-là. C'est la volonté de Facebook qui fait qu'aujourd'hui, le compte est clôturé. Mais s'il n'y avait pas eu volonté de Facebook, rien n'interdisait dans la loi à M. Dieudonné Mbala Mbala de continuer à commettre des délits et proférer des propos antisémites et négationnistes.
Dieudonné, Alain Soral, Génération Identitaire ou encore le groupuscule antisémite QAnon aux États-Unis. Cet été, l'heure est au grand ménage pour Facebook et Twitter et les autres sur Internet.
Mais ce n'est pas toujours si simple, Martin. Facebook invoque souvent la liberté d'expression.
Ouais, c'est l'un des grands arguments de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Voilà ce qu'il dit récemment à propos des négationnistes. Écoutez bien, je pense que ces personnes se trompent sans le savoir. Vous avez bien entendu, pour Mark Zuckerberg, les négationnistes sont juste des gens qui se trompent. Parce que la différence pour Facebook, la voilà. Si vous défendez la Shoah, si vous en faites l'apologie, si vous dites que c'est une bonne chose que d'avoir exterminé plus de 6 millions d'hommes, femmes et enfants juifs, alors ok, vous êtes banni de Facebook. Mais par contre, si vous dites simplement que les camps n'ont jamais existé, si vous dites que le génocide juif, après tout, on n'est pas sûr que ça se soit vraiment passé, alors pour Facebook, vous êtes juste un idiot, vous avez juste été un peu distrait en cours d'histoire, et après tout, vous avez le droit de continuer d'écrire ce genre de choses sur votre mur entre potes. Une telle légèreté, dirons-nous, de Mark Zuckerberg envers les négationnistes a carrément obligé des survivants de camps d'extermination à prendre la parole. C'était il y a quelques jours. Ils ont publié une vidéo sur Facebook à leur tour.
Les gens qui disent que la Shoah ne s'est jamais produite sont en fait des gens qui me traitent de menteur. Mes amis rescapés et moi-même ne sommes pas des menteurs. Nous sommes des témoins de l'histoire.
Mark Zuckerberg.
Retirez les messages négationnistes de Facebook.
Voilà, nous sommes en 2020, des survivants de la Shoah obligés d'expliquer que ce ne sont pas des menteurs.
Autre chose, Martin, deux grandes plumes de l'équipe quittent le quotidien en ce mois d'août.
42 ans qu'il était à l'équipe, Pierre-Michel Bonneau s'en va. Et le journaliste ce matin, Vincent Duluc, rend hommage à son collègue, à son ami aussi, dans un article, L'Impertinent. C'était lui. Vincent Duluc commence ainsi. Les acteurs du rugby, victimes de son humour et de sa causticité dans un style sans pareil, en seront soulagés. Les autres seront moins consolable. Voilà pour cet hommage. Pierre-Michel Bonneau, 64 ans et ses moustaches intactes, préfère désormais partir à Fontainebleau, se reposer et jouer au golf. Mais il continuera, promis, de guetter le ballon ovale. En supplément, dans l'équipe, vous trouverez aussi les meilleurs punchlines de Bonneau. Son attaque de chronique la plus osée, par exemple, ou encore son meilleur titre. Il s'en va aussi. Philippe Brunel, plus branché ballon rond que ballon ovale, dans son dernier papier, comme on dit dans le métier, il part à Rome à la rencontre d'un joueur de légende éthiopien de 84 ans, Luciano Vassallo. Tout ça, c'est à lire dans l'équipe aujourd'hui. Hommage à ces deux grandes plumes.
Sad news au Royaume-Uni. L'un des programmes préférés des enfants va disparaître.
Et on peut carrément parler de drama, Pascal, parce que ça s'appelle News Round. Et la BBC va bientôt y mettre fin. Alors News Round, qu'est-ce que c'est ? C'est un journal du soir pour les enfants. C'est une institution, un monument, un rituel même pour les 6-12 ans. 17h, imaginez, les petits Britanniques rentrent de l'école avec l'uniforme un peu froissé, dans leur salon un peu kitsch avec un portrait de la reine d'Angleterre au mur. Leurs parents les attendent avec une tasse brûlante de thé noir. C'est le tea time et toute la famille se met devant la télé. Extrait de News Round, c'était hier.
Hello everyone. Salut tout le monde, je m'appelle De Graft, je suis avec vous ce lundi pour News Round. On commence avec les astronautes américains de SpaceX. Ils sont revenus hier soir sur Terre à bord de leur capsule. Ils ont été récupérés au large de la Floride, 9 semaines après avoir été envoyés dans la station spatiale internationale. SpaceX.
Un programme d'actu pour les enfants, cela faisait 48 ans que c'était à la télé. News Round bascule désormais sur Internet. Heureusement, tout n'est pas perdu. La BBC n'a pas encore supprimé son News Round du matin. Les enfants britanniques pourront toujours regarder au réveil avec leur bacon, leurs œufs sautés et leur porridge, le news avancé.
Surtout le porridge. Merci Martin Cangelosi, le journal des médias. Et puis à tout à l'heure, puisque vous allez faire une apparition, dans la partie culture. Mon disque du jour parle d'un grand sommeil. Ah ben non, vous ne replongez pas. Étienne Dao sur Europe 1, belle matinée à vous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Le journal Le Monde réussit décidément ses séries d'été après celle consacrée par Samuel Blumenfeld à Jean-Paul Belmondo. Tout autre chose, non moins passionnante, cette série qui est en train de se terminer, mais qui ne va pas s'autodétruire pour autant, consacrée en 6 épisodes à l'affaire Gabriel Russier. Bonjour Pascal Robert Diard.
Bonjour.
C'est vous qui l'a signé cette série avec Joseph Beauregard. Ah là là, cette affaire Gabriel Russier, est-ce que vous pensiez depuis longtemps à vous y replonger ?
En fait, au départ, cette histoire doit beaucoup à Joseph Beauregard, justement, qui est réalisateur et qui avait commencé vraiment un travail pour retrouver témoin après témoin, les élèves, enfin tous les témoins de l'époque, etc. Et qui m'en parlait au fur et à mesure. Voilà. Et puis un jour, on s'est posé la question d'en faire effectivement une série dans le journal, dans Le Monde, parce qu'on avait des documents assez exceptionnels, que le confinement, je dois dire, nous a pas mal aidés parce qu'il nous a donné beaucoup de temps et que les témoins eux-mêmes avaient du temps.
L'une des vertus du confinement.
On a beaucoup échangé avec eux. Et puis ensuite, évidemment, dès la levée du confinement, nous sommes allés les rencontrer. Ça a été des moments très, très forts.
Alors, je précise que vous êtes spécialiste judiciaire depuis un bon moment au journal Le Monde. Tant que ça.
Oui, depuis 2002. Donc, ouais. 18 ans de chronique judiciaire.
Pas mal. Cette histoire de l'amour interdit entre une prof de français des quartiers nord de Marseille et l'un de ses élèves mineurs, histoire tragique, on est en 68-69. Pourquoi, à votre avis, est-elle devenue emblématique? Pourquoi a-t-elle autant marqué, vous y compris, visiblement?
Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est devenue... Il y a une phrase que je trouve très très belle, qui n'est pas de moi, qui est d'un de ses professeurs écrivains, qui s'appelle Raymond Jean, d'un des professeurs de Gabriel Russier, qui dit que Gabriel Russier a été l'enfant prématuré de mai 68. Et je trouve cette phrase absolument magnifique et je pense qu'elle résume beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle a vécu, elle a 30 ans. 30 ans, c'est tard. Elle a été mariée, elle est divorcée.
Elle a des jumeaux.
Elle est mère de jumeaux. Mmh. Donc je veux dire, elle a vécu la génération d'avant. Et tout d'un coup, arrive cette explosion de liberté, ce moment absolument incroyable où on a l'impression que tout va basculer, que l'espèce de couvercle de chape de plomb que fait peser le gaullisme sur la société va exploser.
Donc mai 68.
Voilà, mai 68. Et elle va vivre ça, sauf qu'elle, elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas l'âge de la folie. C'est une femme qui est déjà installée et qui va, je pense, le vivre plus intensément, mais qui va le vivre jusqu'à la perte, effectivement. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle est à la fois cet enfant prématuré et à un moment donné... Puisque justement la société qui bascule, elle est encore dirigée par ceux d'avant, d'une certaine manière. On va le lui faire payer très très cher. Et elle va être à la fois celle qui va vivre l'époque et celle que l'époque va totalement engloutir et étouffer. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce moment-là.
Ce qui est frappant, Pascal Robert Diard, dans le récit que vous faites de cette affaire, c'est d'abord la force des documents que vous proposez, les photos notamment. Photos intimes, très émouvantes, les témoins que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il a quand même fallu, 50 ans après, gagner quelques confiances?
Ah oui, ça a été un travail très très long. Et là, encore une fois, c'est vraiment mon co-auteur Joseph Beauregard qui a obtenu cette confiance doucement, parce que ce sont, vous savez, comme dans tous les faits divers, qui à un moment donné ont défrayé la chronique, les témoins sont des brûlés.
Marqués à vie?
Oui, sans compter que ceux-là, évidemment aujourd'hui ils ont 67 ans, mais ils en avaient 17 à l'époque. Donc ils ont vécu quelque chose de très 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 violent, c'est leur professeur, ils ont vécu 68, ils entrent dans la vie, leur professeur se suicide, et ensuite ça devient, une fois qu'elle s'est suicidée, une affaire, et donc ce sont des brûlés, donc il fallait effectivement gagner leur confiance.
Donc ce sont des protagonistes de l'affaire, ouais, qui ont abrité... rendu possible, parfois favorisé,
vécu
les amours de Gabriel Russier, voilà, 30 ans, et de Christian Rossi,
notamment les plus émouvants, ce sont tous ces anciens élèves qui étaient dans la même classe que Christian Rossi, donc qui était l'amoureux de Gabriel Russier, et qui ont protégé, qui ont vu naître cette histoire d'amour, qui l'ont protégé, qui ont vécu au plus près d'eux, quoi. Et donc ceux-là, ils avaient besoin de... Ils sont très marqués encore, c'est drôle, hein. Ils sont très éprouvés.
Ouais. Pas de réticence alors, une fois que...
Certains si, la principale réticence étant celle de Christian Rossi.
Bien sûr. Le 1er septembre 1969, Gabriel Russier se suicide au gaz dans sa maison des quartiers nord de Marseille. Elle craque devant cet amour impossible. 3 semaines plus tard, le président Georges Pompidou, interrogé sur cette affaire lors d'une conférence de presse, cite le poète Paul Éluard.
Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard.
22 septembre 1969, lors d'une conférence de presse, Georges Pompidou, c'est incroyable là, ce qui se passe.
C'est un moment absolument incroyable, magnifique. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'en faisant cette enquête, on a découvert que vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui ont trouvé ce moment magnifique. Moi, j'en faisais partie. J'avoue vraiment, j'étais très émue. Je le suis à chaque fois que je l'entends. Et ceux qui ont trouvé ce moment absolument odieux.
Vous parlez de la réponse de Georges Pompidou.
De la réponse de Georges Pompidou, parce que hypocrite. Alors, effectivement, on sait depuis que cette question avait été négociée, que le journaliste Jean-Michel Royer qui la pose avait prévenu le président Pompidou de cette question, donc la réponse n'est pas totalement spontanée, et qu'effectivement, il y a quelque chose d'hypocrite dans la mesure où il ne dit pas ce qui s'est passé est très grave, je demande une enquête, je veux savoir pourquoi cette femme s'est suicidée, pourquoi la justice s'est comportée de la manière dont elle s'est comportée, pourquoi est-ce qu'on a fait appel, etc.
Il ne réagit pas en président en fait.
Il biaise, il réagit en intellectuel, en littéraire et en ancien professeur de français, latin, grec comme elle d'ailleurs.
Exactement. On va revenir, Pascal Robert-Diard, sur cette affaire Gabriel Russier telle que vous l'avez revécue pour cette série dans le journal Le Monde. C'est tout de suite après ça. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Ça s'est passé en France en 1968. Ébullition, révolution, on ne sait pas encore, mais une jeune prof de français de 30 ans ne va pas tarder à mourir d'aimer.
Si t'as fait renvoyer, c'est pour nous séparer.
C'est ça que j'aime pas.
J'irai te voir.
Et si c'était trop loin?
J'irai quand même.
Promets-le-moi.
Je te le promets.
Charles Aznavour, évidemment, il y a eu aussi pas mal de chansons, il y a eu Reggiani, il y a eu ce film d'André Cayat, Mourir d'aimer, où Gabriel Russier était interprété par Annie Girardot. On a l'impression, Pascal Robert-Diard, qu'en mettant fin à ses jours, Gabriel Russier, elle fait se poser des questions à tout un pays, non?
Oui, ce qui est très frappant et ce qui nous a vraiment beaucoup frappé pendant l'enquête, c'est qu'en regardant la presse au moment de l'affaire, c'est notamment au moment de son, elle est incarcérée, hein, elle passe en détention qu'on appelle à l'époque préventive. Elle est incarcérée une première fois pendant une semaine en décembre 68. Elle est ensuite incarcérée au printemps 69. C'est pas rien, une professeure qui est incarcérée pour. Aujourd'hui, on imagine. Bon, évidemment, il y a un contexte, il y a le départ de Gaulle, il y a l'élection de Pompidou, il y a plein de choses qui se passent et qui font que l'attention est attirée ailleurs. Mais finalement, cette affaire est considérée comme relevant de la vie privée, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'en parle pas. Et tout d'un coup, le suicide fait que. L'affaire explose et vraiment devient une affaire. Je veux dire, tous les médias arrivent, toutes les radios en parlent, la télévision en parle. Le film, évidemment, va bouleverser tout le monde. Et effectivement, il y a cette mauvaise conscience, ce remords. Pompidou cite évidemment Éluard, moi, mon remords ce fut. Et en réalité, c'est le remords de tout un tas de gens qui se disent, j'aurais dû agir, j'aurais dû dénoncer, j'aurais dû faire.
Oui, et un sentiment d'injustice qui surnage. Et pourtant, évidemment, c'était illégal ce qu'elle a fait.
Alors, il faut bien distinguer une chose. L'histoire, elle n'est pas poursuivie pour avoir une relation avec un jeune homme, parce qu'il a plus de 15 ans. Donc ça n'est pas pénalement répréhensible. Elle est poursuivie pour enlèvement et détournement de mineurs, qui est un autre délit, qui est l'idée qu'elle l'a enlevé à ses parents, puisque Christian Rossi ne va plus dormir chez ses parents, et qu'elle le détourne de la scolarité, etc. Mais l'affaire, elle n'est pas poursuivie pour aimer.
Oui,
voilà.
Détournement de mineur quand même.
Oui, détournement de mineur, mais parce que le détournement, c'est qu'elle le détourne de chez lui. Mm-hmm. Voilà. Donc, évidemment que tout ça est très ambivalent et hypocrite, mais les parents, d'ailleurs, les parents de Christian lui reprochent de vraiment leur arracher leur fils, mais de le détourner de ses études surtout. Voilà. Mm-hmm. Ils reprochent pas au départ vraiment la relation amoureuse entre les deux.
Pascal Robert-Diard, on l'évoquait tout à l'heure, Christian Rossi n'a reparlé qu'une fois de cette histoire. C'était dans une interview au Nouvel Observateur en 1971.
À Pierre Bénichoux.
Oui, à Pierre Bénichoux, il avait dit « Ce n'était pas du tout une passion, c'était de l'amour. On s'aimait, on l'a mise en prison, elle s'est tuée, c'est simple.
» Il est resté sur ces mots-là, qui sont aussi des mots à la fois des jolis mots sur elle et des mots de colère contre ses parents. Je pense que, enfin, c'est très compliqué, on va pas interpréter ses sentiments, etc. Je pense quand même que pour un garçon de 17 ans, parce qu'il a 17 ans au moment où elle se suicide, l'affaire est trop lourde. C'est-à-dire que on a l'impression quand on enquête qu'en fait au début c'est lui qui l'a séduit, c'est vraiment lui qui, et après c'est elle qui est emportée et lui qui est un peu dépassé par l'amour qu'elle lui porte, mais surtout par les conséquences de cet amour. Il a quand même passé 3 semaines en cure de sommeil. C'est quand même dingue. Quoi.
Ouais. Vous l'avez rencontré, j'imagine, Christian Rossi, qui a 68 ans aujourd'hui.
Non, Christian Rossi, on a échangé avec lui, ouais. Mais voilà, il a fait la même réponse que celle qu'il avait faite à la fille de Gabriel Russier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est son jardin secret. Et il ne veut pas en parler.
Donc vous ne savez rien de sa vie, rien.
Aujourd'hui,
du tout.
On sait des choses sur sa vie, mais comme il ne veut pas en parler...
D'accord. Quel type de réaction a provoqué votre série, Pascal Robert-Diard ? Est-ce qu'il y a eu des choses assez étonnantes, insoupçonnées ?
Bon, je pense que ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, elle est à la fois, je pense, très connue, cette histoire, par les gens qui ont plus de 50 ou peut-être plus de 60 ans. Et elle ne l'était pas du tout par les plus jeunes qui ont découvert ça. Donc je crois que voilà, les premiers ont eu du plaisir à la découvrir, à la relire, peut-être sous un autre jour, et les autres à la prendre connaissance. Ce qui m'a frappée, c'est la comparaison qui revenait en permanence avec Matt Sneff. Alors que vraiment, je trouve ça terrible, quoi. Parce que je me disais...
Ah, vous avez eu ça ?
Ah oui, dans les commentaires, c'était incroyable. Je me disais, mais quel rapport ? Parce qu'évidemment, c'est une femme, voilà, que c'est un mineur.
Moi, j'ai pensé à une autre histoire.
Et puis bon, il y en a une autre, évidemment.
50 ans plus tard, Brigitte Trogneux, plus connue sous le nom de Brigitte Macron. Est-ce que le parallèle tient le coup, selon vous ?
Bien sûr. Bien sûr. Y compris, je pense, pour la réaction des parents.
Mais l'autre enquête n'a pas eu lieu, on est d'accord.
Elle est à faire.
Elle est à faire et vous seriez tentée ?
Non.
Pourquoi pas ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que... Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une affaire judiciaire autour, peut-être, pour que je m'intéresse.
Oui, c'est ça. Bon, si c'est que ça, il y a peut-être moyen. Voilà, si ce n'est déjà fait, vous pouvez relire. Bon, il faut être abonné au Monde.
Absolument.
Ou l'acheter en kiosque. Peut-être que ce sera édité, non ?
Oui, ce sera édité.
Ah ben voilà. Ouais, quand ouais. Comment ?
En janvier, a priori, ce sera un livre en janvier. Voilà.
Ouais, oui, c'était sûr. Chez qui ?
Chez l'Iconoclaste.
Ah ben voilà. Il faut vraiment vous soutirer les informations. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média d'été ce matin, Pascal Robert-Diard. Votre série donc sur l'affaire Gabriel Russier. Et un merci personnel pour cette série que j'ai trouvée passionnante.
Merci à vous, Pascal.
Total changement de décor dans quelques minutes avec le nouveau programme de M6, Force spéciale, l'expérience. Écoutez d'abord ça, repérez sur TikTok la néo-zélandaise Bini. Merci à vous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
À côté de ça, Koh-Lanta pourrait passer pour un séjour paradisiaque et Fort Boyard pour une cure de thalasso, de la sueur, des douleurs, des larmes, de la résistance extrême. À partir de ce soir en prime time, M6 lance sa série Force spéciale Expérience, adaptation d'un concept britannique, 25 civils dont 3 femmes. Tente l'une des sélections les plus dures au monde, intégrer les forces spéciales de l'armée française, une unité d'élite capable d'intervenir dans n'importe quelle condition généralement hostile. Dans cette télé-réalité documentaire en immersion, il n'y a rien à gagner, il s'agit de tester ses limites. Bande annonce, merci.
Boss. Allez, c'est maintenant qu'on est dans le dur, là.
Pour moi, c'est un vrai challenge.
Regarde-moi ! Rapidement, là, c'est bon. Défends-toi !
J'ai plus de force.
Relève-toi, arrête de pleurer.
On change, on change.
Les forces spéciales, c'est, on va dire, l'élite de l'armée française. Les meilleurs des meilleurs.
Vous êtes motivés ?
Oui, bien sûr.
Force spéciale, l'expérience. Mardi à 21h05.
Et bonjour Jessica.
Bonjour.
Vous êtes l'une des candidates que l'on verra tenter la sélection à partir de ce soir sur M6. Jessica, quel âge avez-vous et que faites-vous dans la vie ?
J'ai 35 ans et je suis coach sportif dans le sud de la France.
D'accord, coach sportif, ouais, y a quand même une base. Qu'est-ce qui a bien pu vous motiver pour tester cette expérience ultime ?
On va dire que dans mon quotidien, j'ai l'habitude d'avoir pas mal de challenges. En tout cas, j'essaye de trouver des nouvelles expériences. Et là, vraiment, on était dans la nouveauté totale de mon quotidien. Et j'ai trouvé le concept plutôt original. Donc, j'ai voulu tenter l'expérience.
Alors, à vivre, à quoi vous attendiez-vous et sur quoi êtes-vous tombée ?
Alors, pour être vraiment ultra transparente, je m'attendais à pas grand-chose parce que je connais pas du tout le milieu des forces spéciales. Je m'étais très peu renseignée, donc je m'attendais à beaucoup d'épreuves sportives. Donc j'ai été servie. Et après, il y avait toute la partie, on va dire, un peu plus technique, psychologique, mentale. Et ça, vraiment, pour le coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là aussi, j'ai été très servie.
On va revenir sur votre expérience. Mais d'abord, je salue Ryan. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Vous avez 52 ans, vous êtes chef instructeur au sein des forces spéciales, pour de vrai, hein, tireur d'élite spécialisé haute précision. Combien d'années de service pour vous ?
Alors j'ai passé 25 ans.
Avec une spécialité dans le contre-terrorisme, correct ?
Alors on a plusieurs spécialités. Moi j'étais instructeur tireur d'élite et avec des spécialités particulières, dont le contre-terrorisme. Ensuite, j'ai suivi surtout tout le cursus de force spéciale qui m'a amené justement à être chef d'un groupe Action Spéciale.
Normalement, Ryan, quelqu'un comme vous, non seulement ne parle pas, mais se cache plutôt. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Alors, on n'est pas secret, on va dire, on est plutôt discret. On n'est pas non plus des agents secrets, on est force spéciale, donc les missions sont discrètes. Pour plusieurs raisons, bien évidemment, en termes de sécurité. Mais ensuite, quand les missions sont terminées, sont effectuées, on peut très bien parler pour certaines. Ensuite, on reste évidemment discret pour des raisons de sécurité, pour tout ce qui peut se passer encore à l'heure actuelle.
Donc en termes de discrétion, un prime time sur M6, moyen, non ?
Non, parce que alors je trouve ce concept moins intéressant. Pourquoi je me suis lancé dans l'aventure, en gros, c'est parce que j'avais envie de savoir justement si des civils étaient capables de s'affronter à des exercices qu'on peut trouver chez nous. Et c'est vraiment une émission authentique, c'est pas de la télé-réalité. Donc le concept m'intéressait, et je peux vous dire que j'ai plutôt été agréablement surpris par les volontaires. Et ce qu'on montre, il n'y a pas non plus... on montre évidemment ce qui se passe chez nous, c'est vraiment authentique. C'est tous les exercices qu'il faut, on les a réalisés dizaines de fois. Évidemment, après, on va pas trop loin non plus. On ne fait pas de tir, on fait pas de combat, on ne va pas tout le temps en parachute, on va pas monter des procédures particulières qui pourraient nous nuire.
Quelles qualités essentielles, Ryan, citeriez-vous pour prétendre intégrer les forces spéciales ?
Alors pour les qualités, bon, il faut bien sûr être très fort physiquement, très fort mentalement. Ensuite, il faut surtout être exemplaire. Il faut être disponible, motivé, discipliné. Et il faut faire aussi preuve, bien sûr, de solidarité, d'esprit d'équipe. Et je dirais aussi de bon sens et d'intelligence de situation. Il faut être complet, quoi.
Ouais, dis donc, ça court pas les rues, là, le portrait que vous venez de dresser.
Ben, ça court pas les rues, je vais pas vous dire que c'est simple, je vais pas vous dire que c'est facile. On s'entraîne énormément, mais je veux dire, des personnes qui correspondent à ce profil, il y en a quand même plus qu'on le pense, pour qu'ils se fassent un peu confiance, en fait, et puis après on les aide, hein, ils sont pas lâchés, ils sont pas tout seuls. Hein. C'est un apprentissage, quoi. Ça dure une vie, hein. C'est toute la carrière.
Jessica, est-ce que vous vous attendiez à des épreuves aussi difficiles ?
Je m'attendais à des choses très difficiles, en fait, au niveau physique. Après, moi, c'était plus la partie psychologique où je ne m'attendais pas qu'on puisse aller aussi loin.
C'est-à-dire
c'est une fois de plus, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, c'est vrai que... ils nous ont poussé un petit peu dans, au-delà de nos limites, en fait, c'est vrai que bah, nous, les civils, on, je pense que, comme tout le monde, on pense qu'on est un petit peu, pas limité, mais on pense qu'on a certaines limites. Et en fait, là, ce qui était intéressant, c'est de voir jusqu'où on était capable d'aller, parce qu'ils nous ont démontré par A plus B qu'on pouvait aller super loin, bien au-delà de ce qu'on pensait. Donc, c'était ça que j'ai trouvé intéressant, en fait.
Mmh. Mais c'était comme une, pardon pour l'expression, mais un petit peu une motivation pour du beurre, sauf à penser que la télé est du beurre, évidemment, mais voilà, qu'est-ce que ça vous a appris? Comment avez-vous pu vous motiver, puisque ça n'était pas vraiment une sélection, au final?
On va dire que moi, ce qui m'a motivée, c'est ce que j'aimais dans le concept, c'était que il nous expliquait tout ce qui était la discipline, le travail, la motivation, enfin, comment acquérir tout ça. Bon, en fait, on l'a ou on l'a pas, mais quels sont les outils qui font que ça peut nous aider justement à dépasser tout ça. Moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est ça qui me boostait, en fait. Donc ensuite, oui, c'est sûr, c'était pas facile. C'était pas facile tout le temps, parce que c'était quand même du H24. Mais j'aimais le concept de la formation, en fait, de me dire, je vais être encadrée pendant sur une période, de me dire, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre. Et moi, j'ai trouvé l'idée hyper originale, quoi.
Mm-hmm.
Donc, je savais qu'il n'y avait pas une sélection. Je sais qu'il n'y avait pas une sélection derrière, mais je l'ai pris comme telle, en fait.
D'accord. On va rentrer dans le détail. Jessica Reyan, restez encore quelques minutes avec nous. Force spéciale d'expérience ce soir sur M6. Et vous qui nous écoutez au lit, attendez-vous à du sévère. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
25 candidates entreront à partir de ce soir la sélection des forces spéciales d'unités d'élite sur une ancienne base militaire, plongée en immersion sur le mode documentaire, pas de cadreur, des caméras manipulées à distance. Jessica, avez-vous vu le résultat ou alors vous le découvrirez ce soir à la diffusion ?
Non, j'ai vu absolument rien du tout. Je vais découvrir en même temps que tout le monde.
C'est pas possible.
Donc c'est un petit peu stressant. Non, je sais absolument pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas du tout si on va me voir, si on va pas me voir, comment ça a été monté. Je suppose que vous allez pas forcément tout voir, parce qu'on a fait tellement de choses que je pense pas qu'on pourra tout mettre en avant. Mais je sais pas, on verra.
Mmh, si vous voulez, j'ai déjà un extrait à vous proposer, ça vous dirait? Je crois que vous êtes dedans.
Ouais, j'ai vu des teasers, effectivement. J'ai vu, comme tout le monde, au fur et à mesure des derniers jours, j'ai vu quelques passages des autres, de moi notamment, des instructeurs. Et voilà, donc voilà, j'ai hâte.
On va écouter, puisque nous, c'est la radio, donc on va écouter un extrait du premier épisode de cette émission qui passe ce soir sur M6. Je crois bien que vous êtes dedans, j'en suis même sûre, Jessica, écoutez.
Entière, juste, positive, ambitieuse, fière. Ah, d'accord.
Tu peux courir, toi. Tu peux.
Je pense qu'elle va mal supporter quand ça va pas dérouler comme elle veut.
Je supporte pas quand on m'impose quelque chose ou quand on m'impose des règlements. C'est au-delà de mes capacités.
Eh bien, reste juste ton sac. Allez, reviens-toi. Pas droit. Droit, serein.
Me fait chier, ce putain de sac.
Hein, vous êtes bien dedans, on dirait.
Oui, j'ai bien reconnu ma voix, c'est ça.
Alors, beaucoup d'épreuves, c'est le principe. Parcours du combattant, marche lourde, l'asperge, que vous allez nous décrire dans un instant. Mais est-ce que vous aviez une bête noire parmi ces épreuves?
Oui. J'avais une bête noire qui était tout ce qui va être d'être enfermé ou bloqué pour tout ce qui va être le principe même de respirer. Donc ça peut être sous l'eau ou enfermé dans une boîte ou bref, tout ce qui pouvait bloquer ma respiration, ça me posait souci, oui.
Et vous l'avez beaucoup fait, donc.
Vous verrez au fur et à mesure, je ne sais pas.
Alors c'est quoi l'asperge comme épreuve?
Alors l'asperge, l'épreuve, c'est le principe, c'est de, enfin, je sais pas si je vais bien l'expliquer. Le but, c'est de monter sur, là en l'occurrence, on est monté tout en haut d'un immeuble et il fallait sauter sur une, comment on appelle ça, une gouttière, enfin vous savez, quelque chose qui suspend de tout en haut de l'immeuble jusqu'en bas. Et le principe, c'était de sauter, de s'accrocher d'une certaine manière, avec une technique bien précise, et de descendre tout en bas. Donc il y a une technique, il faut être capable de se jeter sans trop réfléchir, mais en même temps il faut réfléchir à comment sauter, comment bien placer ses pieds, comment bien placer ses mains, ne pas montrer qu'on a peur, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc
Ryan, chef instructeur, ça sert à quoi, par exemple, hein, on prend cet exemple-là, ça sert à quoi cette épreuve de l'asperge?
Mais c'est juste pour dépasser ses peurs. En fait, on se jette dans le vide. Il y a une technique particulière pour attraper cette asperge et on descend tranquillement. Mais ça peut être très simple pour certaines personnes. Mais imaginez quelqu'un qui a le vertige. Pour lui, c'est une vraie preuve, quoi. C'est un challenge. Mmh. Et certains doivent justement dépasser cette appréhension et ses peurs.
Je précise que la liaison n'est pas excellente avec vous, Ryan. Je suis désolée, on est simplement au téléphone, mais il y a des mesures de sécurité qui nous imposent d'agir comme ça, hein, faut le préciser.
Oui, bien sûr.
Face aux gens qui flanchaient pendant l'émission, quelle était votre attitude? Vous, intraitable, quoi qu'il arrive?
En fait, on doit être intraitable, mais on n'est pas non plus dans le jugement. Voilà. Il y a des gens qui arrivent certainement. D'autres, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui arrivent qui sont très solides physiquement, comme Jessica, qui sont entraînés, on le sent bien, et d'autres qui sont en dessous, on va dire. Nous, on n'est pas là pour les juger, nous, on est là pour les amener au plus haut, pour qu'ils apprennent à se dépasser, pour qu'ils dépassent leurs limites, qu'ils apprennent à gagner en confiance. On va pousser les limites physiques assez loin, on va renforcer le mental. Et l'un agissant sur l'autre fait qu'on se dépasse en permanence d'un côté comme de l'autre.
Est-ce que ça vous est arrivé à vous, Ryan, dans votre carrière, de perdre pied, même pas longtemps? Est-ce que ça peut arriver à des gens aussi aguerris que vous, puisque nul n'est infaillible?
Bien sûr, dans les entraînements, on arrive tellement à repousser nos limites qu'on y arrive forcément.
Ouais. Parce que si ça se trouve, vous avez peur dans le noir, on ne sait pas.
Non, pas vraiment.
Est-ce que les techniques de formation ont beaucoup évolué dans les forces spéciales? Est-ce que de nouveaux périls vous obligent à vous adapter?
Oui, il faut s'adapter en permanence. En fait, la menace évolue en permanence et du coup, vous adaptez avec eux. Il ne faut jamais se prendre au-dessus des autres. Il ne faut jamais se sentir supérieur. Il faut connaître son ennemi quelque part. Il faut le respecter même. Et il faut apprendre en permanence, il faut renouveler ses capacités, je cherche le terme exact. Il ne va pas venir maintenant, c'est pas grave.
Non, mettez-le de côté, je reviens vers vous. Jessica, est-ce que vous avez réussi la sélection?
Écoutez, vous verrez.
Je trouve ma
chance. Vous verrez au fur et à mesure. Moi, je verrai jusqu'où je suis allée.
D'accord.
C'était il y a un petit moment déjà, mais...
Ok, on va suivre donc cette émission à partir de ce soir, hein, 21h sur M6. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Ryan. Vous avez retrouvé le mot ou...
Merci à vous.
Non, mais par contre, je pourrais préciser, c'est si vous voulez vraiment voir l'état d'esprit des forces spéciales, il faut regarder les 4 épisodes.
Bien
parce
sûr.
Parce qu'il y a un enchaînement normal et logique. Voilà, il y a une... qui correspond vraiment à notre état d'esprit pour vraiment la comprendre. Il ne faut pas
évidemment
s'arrêter juste à un moment.
Merci à vous. Depuis notre canapé, on va vous regarder ramper, vous embourber, creuser des trous de 50 mètres, vous y camoufler, etc., etc. Et on va vous trouver diablement courageux. Merci à tous les deux. À suivre, après 10 heures dans Culture Média, l'humoriste, comédien, réalisateur Kéron. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.